Alors après le transfert de Manchester au Barça de Ronaldo pour 94 millions d'euros, Nicolas Sarkozy propose du transfert du PS à l'UMP pour 1 euro symbolique. 1 euro symbolique pour le transfert du PS à l'UMP. Allez, au revoir.
Oui, salut l'équipe de la BASSI, j'y suis. Alors voilà, je réécoutais sur internet votre la rediffusion du reportage que vous faisiez sur Corbeil-Essonnes et les pratiques de Serge Dassault. Et voilà, bon, mais j'avais envie de vous tirer le chapeau quand même, parce que ça c'est du journalisme de terrain, quoi. C'est du journalisme qui va au contact des locaux. Voilà, Pascal Pascariello est allé au contact des amis de Serge Dassault. Voilà, quoi. Faut du courage, hein, pour faire ce métier quand on veut le faire de manière honnête. Au revoir.
Allô, bonjour. Vincent Gesser, chargé de recherche au CNRS et écrivain, est convoqué en commission de discipline. Son seul crime, avoir mené des travaux de recherche qui ont déplu à un fonctionnaire défense avec rang de général tout de même, qui depuis 2004 s'acharne sur lui et qu'il voit, semble-t-il, un danger pour les intérêts de la France. Ou tout au moins, les intérêts de sa famille de pensée. Ainsi donc qu'on découvre que la recherche est étroitement surveillée dans un pays comme le nôtre. C'est avec tristesse et inquiétude, aux dépens de Vincent Gesser, que nous l'apprenons. Une pétition est en ligne. Elle a déjà rassemblé plus de 2000 signatures de tous bords. Une sanction disciplinaire contre Vincent Gesser serait plus qu'un crime, une insulte à la pensée libre et une victoire de la pensée unique. Mobilisons-nous et signons cette pétition.
Salut à tous les AMG, salut aux Auvergnats qui vont être vachement contents qu'on parle d'eux à France Inter. Je vous rappelle que le repère de Courpierre à côté de Thiers dans le Puy-de-Dôme se réunit tous les deuxièmes vendredis du mois, et donc demain vendredi 12, 18h30 au bar Pizzeria chez Zico, avenue de la Gare, en face chez Borel à Courpierre. Salut tout le monde.
Bonjour, Fabrice Marseille. J'écoute l'émission Service Public ce vendredi 12 juin et j'apprends que dans nos pays du LKP lointain, là où ils avaient manifesté pendant plus d'un mois, ils étaient arrivés à des accords avec le gouvernement et avec les industriels concernant les produits de première nécessité sur lesquels ils avaient largement baissé les prix. Et on a un témoignage ce matin d'une habitante qui nous indique que tous ces produits ont été enlevés à la vente. Alors ça me révolte complètement, là je suis révolté, excédé. On fait des concessions, on met de l'argent sur la table pour aider les gens là-bas. Eh ben, les industriels et les gens qui ont la même mise sur les îles, de Guadeloupe et autres, ils préfèrent enlever les produits. Ils enlèvent tout et puis ils augmentent sur les produits qui restent. En définitive, qui c'est qui paye? C'est en tout premier lieu les habitants, les locaux et les contribuables. Et je comprends pas que l'État ne fasse rien, encore une fois, pour contrôler ce genre d'agissement. Ça me révolte. Je trouve ça dégueulasse. Voilà. Donc, je passe mon coup de nerf sur votre répondeur. Et puis, on verra bien.
Eh ben, on verra bien. Merci pour ces messages, en tout cas, chers AMG. Aujourd'hui, on arrive au terme de ce long voyage à travers la Bolivie. Bolivie, dans ce processus de transformation politique et sociale. Et il faut bien dire que c'est assez complexe, c'est assez compliqué, cette histoire. Rupture avec le néolibéralisme, nationalisation, état fort, relativement fort, réveil indigéniste, enfin on a essayé de raconter tout ça, et un gouvernement face à une opposition très forte. Vous avez vu à Santa Cruz, la droite conservatrice n'entend pas participer, collaborer comme ça tendrement avec le pouvoir en place, et les oligarques se défendent par tous les moyens, légaux et illégaux, si bien que règne dans ce pays une ambiance de guerre civile ville rampante, même si ces temps-ci c'est un peu plus calme. On verra ce que ça donnera aux prochaines élections qui auront lieu en décembre prochain. En tout cas, un pays passionnant, une situation passionnante à nous qui, depuis des années, répétons un autre monde est possible, un autre monde est possible, sans savoir du tout lequel et sans avoir commencé le début d'un projet et encore moins d'une pratique. Or là, pratique, il y a pratique. Voilà, un gouvernement qui, sur cette planète du 21e siècle, eh bien, essaye des ruptures et constitue un laboratoire. Un laboratoire, évidemment, d'abord pour l'Amérique latine, mais aussi, probablement, en partie, pour nous, en tout cas, on a vu que ce sujet vous intéresse. On va finir avec un entretien un peu exceptionnel, même tout à fait exceptionnel, avec le vice-président de la Bolivie. C'est assez rare que là-bas, si j'y suis, se retrouve sous les ors des palais présidentiels. Mais là, c'est un personnage tout à fait singulier qu'on va rencontrer jusqu'à 16 heures. C'est Alvaro Garcia Linera. Et c'est le vice-président, mais c'est aussi un intellectuel, et dit-on, l'un des intellectuels les plus remarquables du sous-continent d'Amérique latine. C'est comme ça qu'on le présente. Alors, vous allez voir, c'est assez étonnant parce qu'il est vice-président, mais il cite aussi bien Karl Marx que Pierre Bourdieu, et il a une vraie vision, il a une vraie expérience, et aussi un discours qui va peut-être nous éclairer sur pas mal de questions que nous nous sommes posées au cours de ce voyage, vous et nous, et qu'il éclairera peut-être de son savoir et de sa pratique. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Alors moi, je n'ai pas fermé l'œil depuis le résultat des élections européennes. Je refais ma soustraction. 28 moins 100 égale 72. 28 moins 100 égale 72. Oui, c'est ça. Imaginez un instant l'inverse. 72% UMP et 28% les autres. Ça aurait eu une signification. On aurait pu dire, oui, l'UMP sort vainqueur. Mais là, 72% des votants sont d'une manière ou d'une autre contre le projet de l'Europe libérale. Grosso modo, 2/3 des Français ont voté contre le projet de Sarko. Oui ? Bon, eh bien je vais pouvoir retrouver le sommeil. À bientôt. C'était Marine de Lège.
AMG du Limousin, vous avez encore une chance de nous rejoindre à Royères-de-Vassivière, en Creuse, où a lieu ce week-end la 2e édition de Bobine Rebelle, festival du documentaire social et politique. Projection, musique, débat dès ce soir à partir de 18h. Renseignements sur le site www.bobinerebelle.org.
Les salariés de l'Association nationale d'entraide du Puy-de-Dôme avec les syndicats Sud et CFDT qui travaillent au sein d'un centre d'hébergement, d'un foyer éducatif, de services d'accueil et d'orientation et du service d'action éducative en milieu ouvert à Clermont-Ferrand seront en grève le vendredi 12 juin. Ils dénoncent l'incompétence du directeur qui pratique un management directif disqualifiant les salariés en ayant une méconnaissance du travail social et de la loi. Concrètement, ce directeur parle des usagers en les nommant de racailles, losers, lascars. Selon lui, un enfant, s'il a plus de 8 ans, peut dormir dans la rue avec ses parents si l'on n'a pas de solution d'hébergement à leur proposer. Depuis un an, salariés et syndicats interpellent le président de l'ANEF en tant qu'employeur sans succès. Le gouvernement, face à la montée de la crise, multiplie les réponses répressives qui méprisent les personnes en difficulté. Les salariés de l'association, secrétaires, hommes d'entretien, psychologues, travailleurs sociaux, sont engagés pour mener un combat afin de défendre les valeurs humanistes et le respect de la personne.
Bonjour Daniel, bonjour aux AMG. C'est Rachid, donc de Saint-Denis. Je vous appelle pour vous informer que depuis le 27 mai, à la demande de la mairie de Saint-Denis et de la communauté d'agglomération que préside notre cher député Brausek, 9 familles ont été expulsées de leurs appartements soi-disant insalubres et qui sont à la rue depuis le 27 mai avec 18 enfants en tout. Dans le plus petit, il en avait 2 semaines le jour de l'expulsion. Là, il en a 1 mois, puisque ça fait 2 semaines. On entame la 3e semaine maintenant. Donc, c'est à la demande de la comité d'agglomération du 93 et de la mairie de Saint-Denis. Donc, chacun assume ses contradictions, mais le maire, en sachant que le maire de Saint-Denis a pris en février dernier un arrêté de réquisition sur un bâtiment de la Poste qui était libre depuis 2002. Merci, au revoir.
En finir avec la corruption, avec les partis traditionnels, avec ces partis corrompus qui veulent seulement prendre l'argent du peuple. Le peu d'argent qui reste au peuple, il n'y a que ça qui les intéresse, camarades. Il faut soutenir le mouvement vers le socialisme, donner sa chance à un parti nouveau, un parti qui aide le peuple et qui pense aux pauvres. Le MAS, c'est ça, des gens pauvres, des paysans venus des quartiers pauvres.
Ton vote écrira la nouvelle page de l'histoire de notre pays. Avec Evo président, Alvaro Garcia vice-président.
Evo Morales.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao et Alvaro Garcia Linera. Bolivie. Une révolution en dents de scie.
Alors là, il y a l'usine de traitement des eaux, donc qui était anciennement l'usine des Las Aguas Illimani, et maintenant, elle a été rebaptisée. Les logos ont été effacés. Voilà, c'est deux gouttes d'eau, le nouveau logo. Alors, comment s'appelle la nouvelle compagnie des eaux?
EPSAS,
la nouvelle compagnie qui s'appelle EPSAS.
Entreprise publique et sociale
de l'eau et de l'assainissement. Anciennement Aguas de Illimani, société privée détenue majoritairement par la Lyonnaise des Eaux.
Oui, on a beaucoup parlé de la guerre du gaz dans ce voyage à travers la Bolivie, mais il y a eu aussi auparavant la guerre de l'eau, qui n'était pas une mince affaire. Vous vous en souvenez peut-être, en tous les cas, là dans ce raccourci, vous comprenez qu'il s'agit d'une réappropriation des ressources de l'eau, d'une nationalisation. Ça a été un des éléments forts de la politique qui est mise en place maintenant, depuis 2006, par l'actuel gouvernement bolivien. Alors, je parlais d'une révolution complexe, d'un laboratoire que constitue aujourd'hui la Bolivie. Il faut bien dire qu'il y a là un attelage hétéroclite entre différents éléments, entre cette rupture avec les politiques néolibérales, mais aussi avec cette force que constitue la revendication indigéniste. Et ça nous étonne, ça nous surprend, ça nous rend perplexe, pas à cause de notre culture française, tout simplement, et puis aussi parce que on sent bien qu'il y a là des risques, s'il y a une force indéniable, et on voit mal comment s'emboîtent ces deux forces. Or, il y en a un qui voit très bien comment s'emboîtent ces deux forces, après, évidemment, l'actuel président, c'est Alvaro Garcia Linera. On peut vraiment parler d'un intellectuel, il est sociologue, et il est politologue, il est mathématicien, il a enseigné longtemps dans les universités d'Amérique latine, pas seulement en Bolivie, et puis il est rentré dans une guérilla, une guérilla qui était Tupac Atari, c'est-à-dire, vous vous souvenez de Felipe Quispe qu'on a rencontré, et bien ils étaient ensemble dans cette guérilla qui a duré assez peu de temps, qui était une guérilla avec revendications indigénistes, indigène que n'est pas Alvaro Garcia Linera, mais il adhérait à ce mouvement et à ses idées. Il a été arrêté en 1992, il a passé 5 ans en prison sans être jugé, et à l'issue de cette... De ce séjour, il a continué son activité d'intello, disons. Voilà, jusqu'en 2005, où il a été avec le président Evo Morales nommé vice-président de ce pays. Alors on a, ben voilà, toutes les questions qu'on s'est posées au cours de ce voyage, on a choisi de lui poser. Il a bien voulu nous recevoir. C'est assez étonnant pour nous de nous retrouver dans un palais. Le palais qui s'appelle le Palacio Quemado, et ce qui veut dire en espagnol palais brûlé. Tiens, palais brûlé. Et oui, nous n'oublions pas que depuis l'indépendance de la Bolivie, il y a eu 150 coups d'État en Bolivie, ce qui relativise notre visite et le prestige de celui qui nous reçoit. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas, si j'y suis, un entretien avec Alvaro Garcia Linera.
Sin esclavos, rescataremos la patria sin patrones, sin esclavos.
Para combatir los males de toda nuestra nación,
luchar con Evo Morales, verdadera solución. Luchar con Evo Morales, verdadera solución.
Il y a un grand historien américain qui s'appelle Howard Zinn et que vous connaissez et qui adore poser à ses interlocuteurs la question suivante. Comment en êtes-vous arrivé à penser ce que vous pensez? Et là, silence. Et là, silence. On est avec Antoine Chao, avec Franck Poupeau, le chercheur ami de La Paz, et on est devant Alvaro Garcia Linera dans ce grand salon tout à fait bourgeois, on dirait, dans les palais présidentiels à la française. Et il y a cet homme qui est assis et qui se tait. D'abord, ça fait bizarre quand on pose une question et que l'on se tait. Mais il réfléchit, il se concentre et l'entretien commence.
Mi persona, como una buena parte de los compañeros que forman el gobierno y las actuales direcciones sociales.
Ma personne, comme la plupart des gens qui sont aujourd'hui au gouvernement ou qui font partie des institutions sociales,
pertenecen a una generación de transición en la historia política boliviana.
Nous appartenons à une génération de transition dans la vie politique bolivienne.
Nos toca vivir de muy jóvenes las luchas contra las dictaduras.
Nous avons dû vivre, et très jeune déjà, les luttes contre la dictature.
L'último periodo de la lucha contra las dictaduras.
La dernière période de lutte contre les dictatures.
Y eso nos permite absorber y vivir con la herencia del movimiento obrero vigoroso de ese momento.
Et ça nous a permis d'absorber et de vivre avec cet héritage de la lutte du mouvement ouvrier dans son apogée.
A la vez, compartir con el ambiente de izquierda latinoamericano y local.
Et en même temps partager toute cette ambiance latino-américaine de gauche
y sus límites en tanto capacidad de lucha por la toma del poder.
Et ses limites dans ses capacités à prendre le pouvoir
y comprensión de la emergencia del movimiento indígena.
Et dans la compréhension de l'émergence du mouvement indigène.
Parallèlement, somos una generación que vive la emergencia compleja del movimiento indígena complementario y a veces en tensión con el movimiento obrero.
Parallèlement, nous sommes une génération qui vit cette émergence du mouvement indigène qui peut être en contradiction avec le mouvement ouvrier mais aussi complémentaire.
Entonces, esta generación ha podido recoger la lectura universalista del movimiento obrero.
Donc cette génération a pu adopter le caractère universaliste du mouvement ouvrier.
pero a la vez recoger la fuerza y el vigor de el discurso y el movimiento y el proyecto de poder indígena.
Y a la fois la force y la vigueur du discours et du projet indigène.
La antigua generación no tenía la posibilidad de ver así las cosas.
L'ancienne génération n'avait pas la possibilité de voir les choses de cette façon-là.
Para la anterior generación solo había obreros, no había indígenas.
Pour la génération précédente, il n'y avait que des ouvriers, il n'y avait pas d'indigènes.
Entonces, esta generación recoge la fuerza del movimiento indígena, pero le incorpora la visión de poder del movimiento obrero.
Donc cette génération utilise la force du mouvement indigène mais y incorpore la dimensión d'exercice du pouvoir du mouvement ouvrier.
El gobierno departamental y el gobierno.
Je suis ici pour vous demander votre soutien.
Evo Morales s'adresse aux mineurs.
En ce moment, j'ai besoin de votre soutien.
2005.
En ce moment, nous avons besoin du soutien de tous les secteurs pour changer la Bolivie. Je ne vous apporte rien, camarades. Je fais partie de vous. Je suis de cette terre. Je suis de votre sang. Pas comme un certain candidat qui distribue des motocyclettes, des billets de tombola, des réfrigérateurs. Moi, je viens les mains vides, car je n'ai rien à vous apporter, camarades. Mais avec beaucoup de respect et d'humilité, je viens vous demander votre soutien. Et si nous sommes au gouvernement, les visites d'après, je ne viendrai pas les mains vides. Ce sera totalement différent. C'est ça la réciprocité dans notre culture, entre nos familles. Ceci est notre tâche. Quand on parle du territoire, de récupérer le territoire, on veut dire que toutes les ressources naturelles doivent revenir aux mains du peuple bolivien. Il faut recommencer à nationaliser les mines, camarades. Ici, on doit changer les politiques économiques. Et il faut récupérer nos ressources naturelles. Je voudrais réellement gagner dès le premier tour. Merci beaucoup, camarades.
Vous vous référez, dans votre héritage intellectuel, vous dites, je me réfère à Karl Marx, à Pierre Bourdieu et à Fausto Reinaga. C'est-à-dire, on voit qui est Karl Marx, enfin j'espère, on voit qui est Pierre Bourdieu, enfin j'espère, mais en tout cas, je peux vous dire que les auditeurs français, il y en a très peu qui savent qui est Fausto Reinaga. J'ai regardé, un peu plus près, et c'est le père de l'indianisme politique, l'indianisme politique. Pour nous, Français, dans nos logiciels, il y a une contradiction entre la revendication ethnique, évidemment, qu'on comprend tout à fait, légitime, et on a envie de soutenir, bien évidemment, et on soutient, pour ce qui nous concerne depuis longtemps, l'émancipation des peuples indigènes, originaires, qui ont été si longtemps maltraités, colonisés, etc. Mais dans cette émancipation, est-ce qu'on risque pas d'être en contradiction avec le mouvement ouvrier qui a d'autres perspectives et qui a une autre ambition et une autre idéologie? Et d'ailleurs, le nom même de votre parti, le MAS, c'est le mouvement vers le socialisme. C'est pas le mouvement vers l'intégration des peuples originaires.
Los indígenas en Bolivia son las clases explotadas.
Les indigènes en Bolivie sont les classes exploitées.
Y de hecho, las clases explotadas en Bolivia tienen, por la construcción colonial de la historia de nuestro país, una identificación étnica.
Et les classes sociales exploitées en Bolivie par la structure coloniale sont les classes indigènes.
La característica de una sociedad colonial es que ha etnificado las diferencias sociales.
La caractéristique d'une société coloniale est qu'elle a ethnicisé les classes sociales.
Durante el siglo XX, el movimiento obrero se construyó en torno a los grandes centros laborales, creando su identidad en torno a su función laboral.
Pendant le XXe siècle, l'identité ouvrière s'est forgée autour des grands centres industriels et a forgé son identité dans ces lieux et dans ces luttes.
À fines del siglo XX y principios del siglo XXI, las clases sociales explotadas en el ámbito agrario y urbano, incluso en el ámbito obrero, han comenzado a construir su identidad a partir del discurso y la autoidentificación étnica.
Au passage du XXe au XXIe siècle, dans les villes comme dans les campagnes, l'identité ouvrière s'est forgée autour d'une revendication ethnique.
Es decir, nada hay en el mundo que obligue que una clase social se movilice a partir d'un discurso estrictamente económico.
Rien n'oblige qu'une classe sociale se mobilise à partir d'un discours purement économique.
El nuevo bloque social de clases explotadas,
le nouveau bloc social de classes exploitées,
campesinos, comunarios,
les travailleurs agricoles, les paysans,
y trabajadores asalariados fragmentados en las ciudades,
et les travailleurs salariés fragmentés et précarisés en ville,
en buena parte logran articularse en torno a un discurso identitario étnico.
Arrivent à articuler leur lutte et leur rencontre à travers un discours de reconnaissance ethnique.
Esto ha sucedido a medida que el antiguo movimiento obrero de gran industria ha quedado disuelto en una nueva estructura obrera precarizada y fragmentada territorialmente.
C'est arrivé au moment où les anciennes structures ouvrières ont été démantelées, se sont dissoutes dans une fragmentation du monde du travail précarisé.
C'est-à-dire que la révolution conservatrice néolibérale a eu pour effet de détruire la classe ouvrière, si bien que l'identité ouvrière est entrée en déclin. Et on est allé vers une identité ethnique à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était plus « je suis un ouvrier, mais je suis un Aymara » ou « je suis un Quechua » ou « je suis un Guarani ». C'est une sorte de repli sur une identité.
Partialmente.
Partiellement.
Lo que hace el neoliberalismo es construir una base material distinta de la condition obrera.
Ce que fait le néolibéralisme, c'est créer une autre base matérielle différente.
Obreros precarizados.
Des ouvriers précarisés.
Muy jóvenes.
Très jeunes.
Sin derechos de asociación.
Sans droit d'association.
Con muchas mujeres en medio.
Avec beaucoup de femmes parmi eux.
Amplía la base obrera de nuestra sociedad, pero la complejiza.
Ce qui augmente la base matérielle de la société ouvrière, mais la complique beaucoup.
Y lo malo es que el antiguo movimiento obrero de gran sindicato no logra entender eso.
Mais ce qui se passe, c'est que l'ancienne classe syndicale ne comprend pas ce changement.
No logra incorporar a los jóvenes precarizados.
N'arrive pas à incorporer les jeunes précarisés.
No logra entender la reivindicación de los subcontratados.
Ne comprend pas les revendications des sous-traitants.
No logra entender el discurso y la necesidad de las mujeres.
Ne comprend pas les problèmes et les nécessités des femmes.
Lo que ha hecho el movimiento indígena, fundamentalmente de base agraria,
ce qu'a fait le mouvement indigène, qui est essentiellement paysan,
que es una clase campesina y una clase comunaria explotada económica y culturalmente, dominada culturalmente,
qui est à la fois une classe paysanne, une classe organisée en communauté, exploitée économiquement et dominée culturellement.
Es crear un discurso de articulación hegemónica del resto de los sectores oprimidos.
Ce qu'a fait le mouvement indigène, c'est de créer un discours hégémonique par rapport aux autres secteurs exploités.
No solamente reivindica intereses para ellos.
Donc il ne revendique pas que leurs propres intérêts.
Sino que también se plantea reivindicaciones generales para todos.
Mais ils reprennent aussi des revendications plus générales pour tous.
Incluso para los obreros.
Même celles des ouvriers.
El movimiento indígena se proyecta estos últimos años levantando banderas universales.
Le mouvement indigène, ces dernières années, brandit l'étendard de lutte plus universelle.
Como la recuperación de los recursos naturales privatizados.
Comme la récupération des ressources naturelles privatisées.
La nacionalización de el gas y el petróleo.
La nacionalización du gaz et du pétrole.
Una asamblea constituyente como una forma de mejorar la democracia.
Une assemblée constituante pour améliorer la démocratie.
La descolonización del Estado.
La décolonisation de l'État.
Que son proyectos generales.
Ce sont
que
des
abarquen a todos.
Ce sont des projets généraux qui concernent toute la population.
Y que le ha permitido lograr alianzas con sectores medios, urbanos, mestizos.
Et qui lui ont permis de créer des liens avec une classe sociale moyenne, métisse, urbaine, non indigène.
Y ha logrado atraer a sectores obreros precarizados, urbanos, que no entran en la vieja estructura sindical del movimiento obrero antiguo.
Et ça a permis aussi d'intégrer des fractions précarisées de travailleurs qui n'étaient pas prises en compte par l'ancien système syndical.
Estoy hablando de este último movimiento indígena que llega al poder.
Et là, je parle de ce dernier mouvement indigène qui arrive au pouvoir en ce moment.
Porque a lo largo de los últimos 184 años ha habido varios ciclos de emergencia política del movimiento indígena.
Parce que dans les dernières 184 années, il y a eu des cycles où les revendications indigènes ont été prises en compte par le pouvoir.
Et ahora, lo interesante es que este movimiento indígena, el que logra derrotar a los gobernantes neoliberales.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est justement ce mouvement indigéniste qui met en échec ces politiques et ces gouvernements néolibéraux.
Que logra articular una gran alianza social urbana rural.
Qui arrive à articuler une grande convergence sociale, urbaine et rurale.
Cuatro veces validada con elecciones con el más del 50% de la votación nacional.
Quatre fois validée par un scrutin national.
Y que está logrando construir una estructura económica post-néolibérale.
Et qui parvient à construire une structure économique post-néolibérale.
En œuvre d'une politique post-néolibérale, voilà l'ambition du gouvernement actuel de la Bolivie, en rompre simultanément avec l'héritage colonial et avec le néolibéralisme, voilà l'ambition du gouvernement actuel et de la Bolivie qu'il soutient, on vient de le dire, quatre fois validé. Par des votes démocratiques, un entretien avec Alvaro García Linera, vice-président de la Bolivie.
El neoliberalismo en el mundo y en América Latina de una manera salvaje se dedicó a convertir los monopolios públicos en monopolios privados.
Le néolibéralisme et d'une façon sauvage en Amérique latine s'est appliqué à transformer les monopoles d'État en monopoles privés.
Y en externalizar, exportar los excedentes generados por la economía primaria exportadora, generadora de materias primas.
Elle s'est appliquée aussi à exporter les bénéfices de la production des matières premières.
Eso en lo económico y entonces en lo político, contracción de derechos.
Alors ça c'était au niveau économique, mais au niveau politique c'est la restriction des droits.
Contracción de beneficios públicos como salud, educación.
La diminution des services publics dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du travail.
Cuando llegamos nosotros al gobierno, lo primero que hacemos es derrumbar este edificio social neoliberal.
Quand nous sommes arrivés au pouvoir, notre première chose a été de détruire cet édifice néolibéral.
Nuevamente potenciamos al Estado.
Nous redonnons de la force à l'État.
El producto interno bruto boliviano en tiempos neoliberales. El Estado lo controlaba en un 12 al 13%.
Le PIB, le produit intérieur brut, pendant l'époque néolibérale, l'État le contrôlait à hauteur de 12 ou 13%.
Hoy el Estado controla el 24% del producto interno bruto.
Aujourd'hui l'État contrôle 24% du PIB.
Y queremos llegar a un 30%.
Et on veut arriver à 30%.
¿Por qué? Porque con ese 30% nosotros logramos controlar la principale génération de richesses du pays.
Pourquoi? Parce qu'avec ces 30%, nous pouvons contrôler la principale source de richesse du pays.
Gaz, pétrole.
Le gaz, le pétrole.
Et partie de minerie.
Et une partie de l'industrie minière.
Esto nos coloca como la principal, no la única, pero la principal empresa económica del país al Estado.
Cela nous place, pas comme l'unique, mais la principale entreprise du pays.
No queremos tener el control del 100%.
On ne veut pas contrôler la totalité.
Una buena parte de la actividad económica está en manos privadas.
Une partie de l'activité économique est dans les mains du secteur privé.
De pequeños productores, de pequeños campesinos.
De petits paysans.
También otra parte está en manos de la inversión extranjera.
Aussi aux mains des investissements étrangers.
Pero lo estratégico y lo decisivo de la economía boliviana ahora está en manos del Estado.
Mais ce qui est stratégique et ce qui est décisif aujourd'hui est entre les mains de l'État.
Y entonces es el Estado quien puede ser ahora cabeza de la economía.
Et donc c'est l'État qui peut être à la tête de l'économie.
Este control de la riqueza nos permite transferir dinero, tecnología, ayuda para crear mercados al pequeño y al microproductor urbano-rural.
Ce contrôle de l'économie nous permet de pouvoir faire un transfert d'argent, de technologie, de connaissances vers le secteur des petits producteurs et des micro-entreprises urbaines et rurales.
Bolivia es un país de pequeños productores urbano-rurales.
La Bolivie est un pays de petits producteurs urbains et ruraux.
El sueño neoliberal era de que estos señores eran inservibles para el país y que tenían que ser objeto de políticas sociales de caridad.
Le rêve néolibéral était que toute cette classe ne servait pas au pays et ne devait être que l'objet de politiques caritatives.
Para nosotros, Bolivia va a seguir siendo un país de pequeños y medianos productores urbano-rurales durante las siguientes décadas.
Pour nous, la Bolivie va rester un pays de petits producteurs urbains et ruraux pour les prochaines décennies.
Pero que internamente pueden tener su propia modernidad.
Mais qui, d'une façon interne, peuvent avoir leur propre modernité.
C'est ce que vous appelez le capitalisme andin.
Cuatro rutas del desarrollo de la modernidad.
Il y a quatre chemins pour le développement de la modernité.
El Estado como L'État, cabeza de la economía.
L'État comme tête de l'économie.
La inversión privada, empresarial, boliviana y extranjera.
L'investissement privé, bolivien et étranger.
Los pequeños y microproductores,
les petits
urbanos rurales,
microproducteurs urbains et ruraux,
y la economía comunitaria,
et l'économie communautaire,
agraria,
agraria.
Son cuatro rutas del desarrollo de la modernidad, cuatro modernidades que tienen que ir en paralelo.
C'est les quatre voies qui doivent se développer parallèlement.
Y el que conduce todo, el que orienta, el Estado.
Et celui qui conduit, celui qui oriente, celui qui dirige, c'est l'État.
Esta economía compleja post-néolibéral.
Cette économie complexe post-néolibérale.
Con pequeños vetas post-capitalistas comunitarias.
Avec des petits éléments communautaires post-capitalistes.
A su vez se traduce en lo político y en lo social en una nueva estructura.
Se traduit au niveau politique et social en une nouvelle structure.
En lo estatal, un estado post-colonial.
Donc l'État, un État post-colonial.
Desracializado.
Déracialisé.
Que reconoce los derechos de todos,
qui reconnaît les droits de tous,
y que pluraliza la identidad étnica del Estado,
et qui pluralise l'identité ethnique de l'État.
Porque todo Estado en el mundo siempre tiene una identidad étnica.
Parce que tout État dans le monde a une identité ethnique.
Francia es una identidad étnica.
La France est une identité ethnique.
Que aparece como no identidad étnica.
Qui veut paraître ne pas être une identité ethnique.
En un país con muchas culturas.
Dans un pays avec beaucoup de cultures.
Con muchos idiomas.
Avec beaucoup de langues.
No puede haber una sola identidad lingüística y cultural del Estado.
Il ne peut pas y avoir une seule identité culturelle et linguistique de l'État.
Eso sería una forma de discriminación colonial.
Ce serait une forme de discrimination coloniale.
Nuestro Estado tiene varias identidades étnicas correspondientes a las varias identidades de la sociedad.
Notre État comporte plusieurs identités ethniques qui correspondent aux différentes identités ethniques du pays.
Por eso la Constitución, la nueva Constitución, ha proclamado que somos un Estado plurinacional.
C'est pour ça que la nouvelle Constitution proclame que nous sommes un État plurinational.
Somos un Estado y una sociedad con una única identidad estatal.
Nous sommes un pays avec une identité étatique unique.
Boliviana.
Bolivienne.
Y varias identidades culturales dentro del Estado.
Et des différentes identités culturelles à l'intérieur de l'État.
Il n'y a pas une ethnie française, il y a une citoyenneté française. Les ethnies françaises ont été broyées et intégrées tout au cours du XXe siècle.
mais il n'y a pas une ethnie française. Et il y a une citoyenneté française.
En Bolivie.
En Bolivie.
Eso también quería ser el objetivo de otros partidos néolibérales, nationalistes, tiempo atrás.
C'était aussi l'objectif des partis, des gouvernements néolibéraux et nationalistes auparavant.
El problema que tuvieron es que a cambio de la identidad étnica particular, como en otros países, no les dieron la ampliación de derechos y de un bienestar.
Contrairement aux autres pays, aux autres républiques, ils n'ont pas réussi à transformer cette identité ethnique en droit citoyen.
Porque muchos pueblos del mundo, en Europa y en América Latina, nacionalidades, han estado dispuestos a abandonar su identidad a cambio de la ampliación de derechos políticos y un bienestar económico.
Parce que beaucoup de populations européennes et nord-américaines ont accepté d'abandonner leurs identités culturelles ethniques au profit de droits sociaux et citoyens.
Esa es la historia de la formación de los estados nacionales en Europa.
C'est l'histoire de la création des états nationaux.
Aquí en Bolivia no.
Ici en Bolivie, ça s'est pas passé comme ça.
Las élites mestizas, dirigentes.
Les élites métisses dirigeantes
buscaban anular la identidad indígena.
Cherchaient à annuler l'identité indigène,
incluyendo a los propios indígenas.
En incluant les propres indigènes.
Nunca los vieron como parte de la sociedad.
Ils ne les ont jamais vus comme faisant partie de la société.
Nunca tuvieron una visión universalista.
Ils n'ont jamais eu cette vision universaliste.
Sino una visión localista.
Mais une vision localiste.
Entonces los indígenas fueron los que se articularon en torno a su identidad.
Donc ce sont les indigènes qui se sont articulés autour de leur propre identité.
Y a la búsqueda de un bienestar económico.
Et ont recherché un bien-être économique.
Y al reconocimiento político.
Et une reconnaissance politique.
Reivindicando su identidad.
En revendiquant leur identité.
Por eso la construcción del Estado en Bolivia tiene esta cualidad plurinacional.
C'est pour ça que la construction de l'État en Bolivie a cette qualité plurinationale.
Libéral et indigéniste, toujours difficile pour nous de marier cette carpe et ce lapin pour comprendre ce qui se passe en Bolivie, et pas seulement en Bolivie, dans les pays d'Amérique latine comparables à celui-là. Il faudrait imaginer ce qu'aurait pu être l'histoire si les colons français dans le Maghreb, les pieds noirs, s'étaient révoltés contre le pouvoir central, avaient créé leurs propres états, et imaginer par la suite quelles auraient été les politiques avec les autochtones, c'est-à-dire les peuples arabes et berbères de ces pays. C'est une hypothèse qui permet probablement mieux de comprendre la situation dans un pays comme la Bolivie. Suite de l'entretien avec Alvaro Garcia Linera, vice-président bolivien.
No se puede ser marxista en Bolivia.
On ne peut pas être marxiste en Bolivie
sin ser indianista.
Sans être indianiste.
Porque el indianismo es la manera en que una estructura conceptual general.
Parce que l'indianisme est la façon pour qu'une structure conceptuelle générale
s'enraiza.
S'enracine.
Localmente.
Localement.
Ese fue el gran problema de los izquierdistas bolivianos.
Ça a été le vrai problème de la gauche bolivienne.
En los años 50 y 60.
Dans les années 50 et 60.
Podían hablar más o menos de Marx.
Ils pouvaient évoquer Marx.
Pero no entendían Bolivia.
Mais ils ne comprenaient pas la Bolivie.
Para ellos no había indios.
Pour eux, il n'y avait pas d'indiens.
No había comunidades.
Il n'y avait pas de communauté.
No había quechuas ni aymaras.
Il n'y avait ni quechua ni aymara.
y han sido los propios quechuas y aymaras que han tenido que enseñar a los izquierdistas.
Et ce sont les propres quechua et aymara qui ont été obligés d'apprendre à la gauche
que ellos existen.
Qu'ils existaient.
Pero a la vez,
mais à la fois,
una lectura indianista solo de la sociedad,
une lecture uniquement indianiste de la société,
es también miope.
Est aussi myope.
Porque no logra ver las diferencias clasistas al interior de los propios indígenas.
Parce qu'elle ne voit pas les différences sociales entre les mêmes indigènes.
Se queda en una lectura meramente culturalista.
Elle reste dans une lecture purement culturelle de la société.
Y por lo tanto impotente.
Et donc impuissante.
Porque no logra entender el poder económico.
Parce qu'elle ne peut pas comprendre le pouvoir économique.
Ni el poder político.
Ni le pouvoir politique.
Por eso creo que la gran virtud de esta generación contemporánea.
C'est pour ça que je pense que la grande qualité de cette nouvelle génération
es haber juntado marxismo.
C'est d'avoir couplé le marxisme
que le a permitido entonces convertir un gran despertar social
qui lui a permis de convertir un grand réveil social
en un proyecto de poder.
Dans un projet de pouvoir.
Hay marxismo e indianismo juntos.
Il y a le marxisme et l'indianisme qui sont ensemble.
Ahora, ¿qué hace el profesor Pierre ahí al medio?
Alors, que fait Pierre Bourdieu là-dedans?
Brindar, eso ya es una elección personal.
Ça, c'est mon avis personnel.
Brindar las herramientas.
Il apporte les outils.
Para permitir diseccionar el cuerpo social.
Pour pouvoir disséquer le corps social.
Y encontrar en el cuerpo social, con esas herramientas delicadas de cirujano.
Et permet de trouver à l'intérieur du corps social, à l'aide de ces outils très précis,
la potencia y el límite,
la puissance et la limite
de la vida social,
de la vie sociale,
de sus fuerzas,
de ses forces,
de sus luchas, de sus tendencias,
de ses luttes, de ses tendances.
Eso es lo que me ha brindado el profesor Pierre.
Voilà ce que m'a apporté le professeur Pierre.
En esta extraña combinación
dans cette
marxismo con indianismo,
dans cet hétéroclite mélange entre
Marx et
indigénisme.
Mais j'ai lu quelque part que vous aviez fait des efforts, vous avez déployé des efforts considérables pour trouver des textes où Marx aborde la question indigène.
Sí, desde adolescente.
Depuis ma tendre jeunesse.
Me fui a buscar a Holanda.
Je suis allé en Hollande.
A l'Instituto Social de Historia de Amsterdam.
À l'Institut Social d'Histoire d'Amsterdam.
Unos textos que Marx leyó a varios historiadores de América Latina del siglo XIX en castellano.
Des textes qu'avait lu Marx à différents historiens d'Amérique Latine en espagnol.
Y anotó al borde comentarios.
Il avait annoté des commentaires sur le côté.
Eso no está publicado.
Ça n'a été publié nulle part.
Pero era una obsesión mía. Sabía que en Marx había algo distinto sobre los indígenas y sobre los campesinos.
Mais c'était mon obsession parce que je savais qu'il y avait quelque chose de différent dans Marx sur la question indigène et paysanne.
Distinto a lo que venía en los manuales de la Unión Soviética.
Différente de ce qui était retranscrit dans les manuels d'Union Soviétique.
Donde los campesinos eran pequeños burgueses.
Où les paysans n'étaient que des petits bourgeois.
Y las identidades étniques eran cosas secundarias a la lucha de clases.
Et où l'identité culturelle ethnique était secondaire à la lutte des
Ya Marx, cuando estudió el tema irlandés,
quand Marx a étudié le cas irlandais,
entendió que la fuerza del pueblo irlandés estaba concentrada en su emancipación de Inglaterra.
Il a compris que la force du peuple irlandais était concentrée dans sa nécessité d'émancipation par rapport à l'Angleterre.
Y que eso era necesario previamente.
Et c'était nécessaire en amont.
Para que el pueblo irlandés explotado pueda dirigir sus fuerzas contra la burguesía regional.
Pour que le peuple irlandais exploité puisse se retourner contre la bourgeoisie qui l'exploitait, locale.
Entonces el tema identitario étnico no era secundario a la lucha de clases.
Donc le caractère ethnique n'était pas secondaire à la lutte des classes.
Es una forma de la lucha de clases.
C'est une forme de la lutte des classes.
Que puede tener distintas orientaciones conservadoras o revolucionarias.
Qui peut avoir différentes orientations conservatrices ou révolutionnaires.
Luego encontramos que Marx había revisado textos sobre la historia económica de América Latina de varios autores como Morgan.
Après, on a trouvé aussi des études de Marx sur différents auteurs qui parlaient de l'Amérique latine comme Morgan.
Kovalevsky.
Y
hemos buscado obsesionadamente
esos textos. Y cherché avec obsession ces textes-là.
Y sigo buscando hasta el día de hoy.
Je cherche toujours.
Leyendo, revisando.
Toute dernière question. J'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit ou le président Evo Morales, il est illusoire de rompre avec le capitalisme.
De manera inmediata.
De façon immédiate.
Romper con el capitalismo, un pequeño país de 10 millones de habitantes.
Rompre avec le capitalisme, nous, un petit pays de 10 millions d'habitants.
Es una locura.
C'est une folie.
El capitalismo es una estructura universal.
Le capitalisme est une structure universelle.
Y su superación es universal.
Et son dépassement doit être universel.
Pero, lo que uno puede hacer y lo que estamos haciendo.
Mais ce que l'on peut faire.
Es potenciar, reforzar.
C'est donner de la puissance, renforcer
las tendencias anticapitalistas,
les tendances anticapitalistes,
post-capitalistes, que están acumuladas en la sociedad boliviana,
donc, qui s'accumulent dans la société bolivienne.
Y a medida que vamos reforzando eso,
et à mesure que l'on renforce ces tendances, ces mouvements,
esperamos que otros países y otros pueblos del mundo hagan cosas parecidas.
On espère que d'autres pays et d'autres régions dans le monde fassent de même.
Mais tout ça, ça passe par le pouvoir, c'est-à-dire que pour changer le monde, prenez le pouvoir.
Claro.
Bien sûr.
Yo creo que Bolivia, a su modo, ha respondido a este debate de fines de siglo.
Moi, je crois que la Bolivie a répondu à ce débat de cette fin de siècle.
En torno a cómo cambiar el mundo.
Donc, ce débat de comment changer le monde.
Algunos decían que hay que cambiar el mundo sin tomar el poder.
Certains disaient qu'il fallait changer le monde sans prendre le pouvoir.
Lo bueno de esa lectura es que nos obliga a todos a ver que es un tema que hay que hacerlo en todos los ámbitos de la vida social. Eso es bueno.
Ce qui est intéressant dans cette vision de changer le monde sans prendre le pouvoir, c'est qu'il faut agir dans tous les secteurs de la vie, dans tous les secteurs de la société.
Pero es un gran error creer que eso se tiene que hacer dejando de lado el Estado.
Mais c'est une erreur de penser que ça peut se faire en laissant de côté l'État.
Porque el Estado, de alguna manera, es un yo colectivo.
Parce que l'État, en quelque sorte, est un moi collectif.
El Estado es también sociedad.
L'État est aussi société.
De alguna manera concentrada y condensada.
D'une certaine façon concentrée et condensée.
Y dejar eso en manos de otros para dedicarnos a lo social.
Et laisser ça aux mains d'autres pour se concentrer que sur l'aspect social.
Es convertir el cambio del mundo en un testimonio personal casi religioso.
C'est convertir cette idée, cette volonté de changer le monde dans une croyance personnelle presque religieuse.
Poco eficiente.
Pas très efficace.
La clave es transformar el mundo, transformando las relaciones cotidianas de la vida.
La clé est de transformer le monde en transformant les relations quotidiennes de la vie.
Y simultáneamente tomando el poder.
Et en même temps prendre le pouvoir.
Transformando la naturaleza de clase del Estado.
En transformant la nature de classe de l'État.
Yo creo que los indígenas en Bolivia, a su modo, han respondido al debate tanto de gente como Holloway o como el propio comandante Marco.
Moi, je crois que les indigènes en Bolivie ont répondu d'une certaine façon à cette revendication de Holloway ou du sous-commandant Marcos.
Mais toute la question est le contrôle démocratique de l'État.
Nosotros nos asumimos y nos esforzamos.
Nous assumons et nous nous efforçons.
En la producción de un gobierno de movimientos sociales.
Dans la production d'un gouvernement de mouvements sociaux.
Parece contradictorio.
Ça semble contradictoire.
Es contradictorio.
C'est contradictoire.
Hay que vivir la contradicción.
Mais il faut vivre cette contradiction.
Porque el Estado es monopolio.
Parce que l'État est un monopole.
El movimiento social es democratización.
Le mouvement social est une démocratisation.
Hay que vivir esa contradicción.
Il faut vivre cette
peleando a cada rato.
En se battant quotidiennement.
Para que en el monopolio de decisiones, Estado.
Pour que dans le monopole de décision qu'est l'État.
Haya socialización de la toma de decisiones y del debate de decisiones.
Il y ait socialisation de la prise de décision
hay
et
que
du
vivir.
Débat sur les décisions.
Esa contradicción no se va a superar.
Cette contradiction ne va pas la dépasser.
Hay que vivir la contradicción todo el tiempo.
Il faut la vivre tout le temps.
Sí.
Voilà, avec cet entretien avec Alvaro Garcia Linera, vice-président de la Colombie, prend fin ce voyage à travers la Colombie. Montage Antoine Chao, Agnès Lebot, Franck Poupeau, Hervé Doalto, Sergio Cáceres. Merci. Un livre d'Alvaro Garcia Linera, Pour une politique de l'égalité, publié par les Prairies Ordinaires. Pour en finir avec l'État colonial, discours d'investiture présidentielle des mouvements à l'Est, c'est aux éditions du Jouet Enragé. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission à oreille reposée. Vous pouvez également réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Rémi Quincez et Aurélie Fortin, Coyenne Guyenne et Raphaël Moutard ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry.
Et Agnès Lebot, quant à elle, attend vos messages au répondeur de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.